À l'écoute de Radio France Internationale, il est 3h en temps universel, 4h à Londres et 5h à Paris.
Marion Cazanov.
À la une, la visite d'État d'Emmanuel Macron au Royaume-Uni. Première journée marquée par le faste royal. Hier, notamment, ce grand banquet au palais de Windsor avec le roi Charles III. Les dirigeants mondiaux continuent de se succéder à la Maison-Blanche. Après Benjamin Netanyahou, Donald Trump reçoit aujourd'hui cinq chefs d'État africains. Il sera question de ressources minières et de sécurité. Et puis en Guinée, cela fait un an que deux figures de la société civile ont été enlevées, Mamadou Biloba et Fonny Kemenge. La justice n'a jamais communiqué sur l'enquête. Le président français reçu avec tous les honneurs au Royaume-Uni. Emmanuel Macron a entamé hier une visite d'État de 3 jours dans le pays, la première d'un dirigeant de l'Union européenne depuis le Brexit en 2020. Il a été accueilli par la famille royale, notamment Charles III, et a eu droit à un tour en calèche, à un banquet fastueux au palais de Windsor, avec plus de 150 convives, dont quelques stars comme Elton John et Mick Jagger. Une soirée de faste où Emmanuel Macron et Charles III ont insisté sur l'amitié historique entre leurs deux pays, malgré des relations tendues ces dernières années. Valérie Gasse était à Windsor.
Mon épouse et moi-même sommes ravis de vous accueillir au château de Windsor pour cette visite d'État, la première que je reçois ici.
Quelques mots en français de Charles III pour montrer l'attention qu'il porte à son hôte, auquel répond Emmanuel Macron en anglais. Je veux vous dire combien j'apprécie votre accueil à Windsor. Des politesses et un peu d'humour anglais du roi sur ce voisin français qui est capable de créer
l'association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise.
Emmanuel Macron lui rend hommage au roi à sa manière.
Quand vous êtes monté à la tribune européenne pour défendre les fromages au lait cru, vous avez définitivement gagné tous les cœurs français.
Charles III et Emmanuel Macron ont joué leur duo avec un plaisir évident devant les invités d'un banquet qui avait des airs de concours d'élégance. La reine Camilla était en blanc, Brigitte Macron en bleu, la princesse Kate en rouge. Les couleurs des drapeaux français et britanniques, il s'agissait de célébrer l'amitié entre les deux pays, ce qu'Emmanuel Macron a appelé une entente amicale scellée par un cadeau.
Nous avons décidé en effet de prêter à la Grande-Bretagne la tapisserie de Bayeux.
Après les mots, les preuves d'amitié. Valérie Gasse, Windsor, RFI.
Emmanuel Macron, qui s'est aussi exprimé hier devant le Parlement au palais de Westminster. Il rencontrera tout à l'heure le Premier ministre britannique Keir Starmer. Il sera question d'économie, d'immigration ou encore de diplomatie. Une importante rencontre diplomatique aujourd'hui à Washington. Le président américain Donald Trump reçoit les chefs d'État de 5 pays africains, les présidents du Gabon, du Sénégal, de la Mauritanie, du Libéria et de la Guinée-Bissau. Tous ont des ressources qui intéressent le chef de la Maison-Blanche, notamment des minerais stratégiques comme l'uranium ou le manganèse. En échange, Donald Trump pourrait assurer à ces pays un appui sécuritaire. Donald Trump qui savoure une victoire devant la Cour suprême. À majorité conservatrice, la plus haute juridiction du pays a donné son feu vert hier à un nettoyage massif voulu par Donald Trump dans les agences fédérales. Si l'affaire continue d'être débattue par des tribunaux inférieurs, cette décision de la Cour suprême autorise donc dès maintenant une vague de licenciements. À Washington, Pierre-Olivier.
L'administration Trump peut immédiatement reprendre ses réductions massives de personnel fédéral. En février dernier, le président avait commencé les licenciements avant d'être stoppé net en mai par un tribunal de Californie, estimant qu'il fallait avoir l'accord du Congrès. Mais pour la Cour suprême, le gouvernement est probablement en droit de mener à bien ses actions. Parmi les coupes à venir, l'ordonnance prévoit des réductions importantes dans plus d'une douzaine d'agences, notamment dans les ministères de l'Agriculture, du Commerce, du Travail, de la Santé et même de l'Intérieur, ouvrant la voie à plusieurs dizaines de milliers de licenciements dans les semaines qui viennent. Un coup dur porté à la démocratie a immédiatement réagi la coalition des syndicats qui était à l'origine de la plainte. La procédure judiciaire va suivre son cours en appel, mais pendant ce temps, l'administration Trump pourra licencier à tour de bras et même si la justice finit par estimer qu'il faut l'accord du Congrès, les dizaines de milliers de personnes licenciées ne seront probablement jamais réintégrées. Pierre-Olivier Washington, RFI.
RFI 3h05 à Conakry, en Guinée. Cela fait un an, jour pour jour, que l'on est sans nouvelles de Mamadou Biloba et de son camarade Oumar Sylla, plus connu sous le nom de Fonike Menge. Ces deux figures de la société civile, membres du mouvement citoyen FNDC, ont été enlevés par des militaires alors qu'ils préparaient une manifestation contre la junte, Sidi Hansané.
Biloba et Fonike Menge sont au domicile de ce dernier quand vers 22h, des hommes en armes débarquent, identifiés par les voisins comme des gendarmes et des forces spéciales. Sans mandat, ils traînent au sol et embarquent Fonike et Bilo, ainsi qu'un jeune militant du FNDC qui tentait de s'interposer. Tout cela sous le regard impuissant des familles. Le troisième homme est vite libéré et fuit le pays. Il témoigne plus tard de coups et de gifles du véhicule qui transporte les militants jusque dans l'enceinte même de la présidence, avant d'être déporté sur l'archipel des îles de Los au large de Conakry. Ces îles où réside le général Mamadi Doumbouya, d'après les sources de RFI et du magazine Jeune Afrique, mais aussi l'ancien bagne colonial français de Fotoba, que le FNDC pointe comme le lieu de détention de Fonike et Bilo. Depuis, les enlèvements se sont normalisés, comme celui il y a 2 semaines de l'ancien bâtonnier de Guinée, Maître Mohamed Traoré. Dans une lettre en avril dernier, Marie-Lou Laure, rapporteuse spéciale de l'ONU pour les défenseurs des droits humains, se dit particulièrement préoccupé par ces disparitions qui semblent illustrer une tendance récurrente, une lettre à laquelle le gouvernement guinéen n'a jamais répondu.
Et le parquet n'a jamais communiqué sur l'enquête concernant ce double enlèvement. La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement affirmait sur France 24 qu'il ne revenait pas à l'exécutif de commenter le processus judiciaire en cours. Il reconnaît l'existence d'enlèvements mais rejette la description des témoins accusant des gendarmes. Au Tchad, la libération de notre confrère Olivier Monodji, correspondant de RFI et directeur de publication du journal Le Pays. Lui et ses co-accusés étaient poursuivis pour intelligence avec des agents d'une puissance étrangère. Ils ont été reconnus non coupables hier. La Syrie est dévorée par de gigantesques feux de forêt depuis plusieurs jours. Plus de 100 km² ont été détruits dans la région côtière de Latakié. Face à la catastrophe, le gouvernement de transition a demandé officiellement l'aide de l'Union européenne. Jeanne Bartoli.
Pour le ministre syrien des situations d'urgence, la Syrie fait face à un véritable désastre environnemental. Plusieurs villages ont été évacués dans le district de Latakié, près de la frontière turque, mais les flammes restent incontrôlables et elles ravagent toujours de vastes zones boisées, des habitations et des exploitations agricoles. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU en Syrie, en une semaine, pas moins de 3% de la surface forestière totale du pays est partie en fumée. Les pompiers syriens ne parviennent pas à venir à bout des flammes attisées par les températures élevées, les vents violents, mais aussi par la présence de restes d'explosifs datant des années de guerre civile. La Jordanie, la Turquie ou encore le Liban ont déjà déployé du matériel pour venir en aide aux pompiers syriens. Chypre annonce l'envoi de plusieurs avions, alors que ce week-end, l'ONU avait appelé à davantage d'aide internationale pour la Syrie, car près de 7 mois après l'éviction de Bachar al-Assad, le pays reste profondément marqué par la décennie de guerre civile qui a ravagé son économie et ses infrastructures.
Et des incendies font rage aussi dans le sud de la France. Des milliers d'hectares sont partis en fumée hier. Les flammes atteignaient la ville de Marseille. La presse britannique continue de faire ses gros titres sur la visite d'Emmanuel Macron. On en a parlé en début de journal, mais elle parle aussi de ce scandale financier qui secoue le pays, le scandale Horizon, du nom de ce logiciel utilisé par la poste britannique et qui a par erreur affiché des déficits dans les comptes de nombreux gérants de bureaux de poste. Cela avait brisé la vie de centaines de personnes et avait même provoqué une vague de suicides. Et c'est ce que dévoile un rapport publié hier, Anastasia Becchio.
Plus de 700 gérants de bureaux de poste indépendants ont été condamnés pour vol et falsification de comptes. Plus de 230 ont même fait de la prison. Beaucoup ont fini ruinés, contraints par la poste de rembourser les sommes prétendument manquantes. Au moins 13 suicides seraient liés à cette affaire. 59 personnes ont par ailleurs envisagé de se supprimer. C'est ce que révèle le rapport du juge Sir Wayne Williams. 3 ans d'enquête, plus de 2 millions de documents étudiés et près de 300 témoins entendus. Le document estime à 10 000 le nombre de personnes frappées par le scandale, victimes directes ou indirectes. Des dizaines de personnes aujourd'hui innocentées sont mortes sans avoir vu leur nom blanchi. Durant des années entre 1999 et 2015, des erreurs dans le logiciel comptable Legacy Horizon du géant technologique Fujitsu ont faussement donné l'impression qu'il manquait de l'argent dans les comptes. D'après le rapport, un certain nombre de cadres de la poste britannique savaient ou en tout cas auraient dû savoir que ce système générait des erreurs. Le ministre du Commerce, Jonathan Reynolds, s'est engagé à faire en sorte que les postiers lésés obtiennent une réparation complète, équitable et rapide.
Anastasia Becchio, RFI, 5h10 à Paris, 3h10 en temps universel à suivre. Grand reportage.